Je vais ce soir partir de comme ça de quelques réflexions qui sont venues lors du congrès international des convergentiers à Buenos Aires, d'où je reviens, le thème étant l'expérience de la psychanalyse, le corps, le symptôme et l'inhibition. Et il y a eu notamment une ouverture sur le corps et le sexuel. Ce qui est apparu, ce qui nous apparaît, je crois, c'est que bien sûr, c'est que c'est pas évident du tout de, parce que justement c'est pas de l'ordre de l'évidence, c'est pas évident d'aborder la question du sexuel, la question du corps et du sexuel en regard de l'expérience de la psychanalyse, si l'expérience de la psychanalyse, c'est ça la grande question, si l'expérience de la psychanalyse, part du fait que elle repose sur le fait que bien sûr l'inconscient est structuré comme un langage, mais l'inconscient c'est pas quelque chose de caché. Il y a le mot structure qui n'est pas du tout ce qu'on appelle habituellement la structure au sens de structure névrotique, perverse et psychotique. C'est pas ça. Et il y a le un du un langage, il y a l'inconscience, c'est-à-dire que l'inconscience est un réel, on ne peut pas comme ça le toucher, mais on ne peut pas dire c'est ça. Et chaque intervenant essaie de tourner autour de quelque chose en y mettant, on va dire, plus ou moins de rationalisation, on va dire comme ça. Je crois qu'on peut dire des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a effectivement une demande de donner à quoi ? Peut-être à manger, finalement, c'est une nourriture, de donner à manger quelque chose qui a une certaine consistance. Et nous savons que cette consistance, c'est quelque chose qui relève de l'être. Alors bien sûr, quand on parle, évidemment, on passe par les mots, on passe par le sens des mots, et si on en reste à l'usage du sens, c'est-à-dire finalement ce que Marx appelle la fonction d'échange, paradoxalement, on est dans le discours qu'on peut appeler un discours qui a commencé depuis pas mal de temps, mais donc il s'est précisé il y a 3-4 siècles, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler l'apparition du discours scientifique à partir des Lumières, à partir de Descartes. C'est pour ça qu'il importe de prendre cette remarque de Descartes qui lui est venue comme ça un jour, le 1er janvier 1619, qu'il écrit sur le registre que lui a offert son maître Beckmann, L'arvatus pro deo, je m'avance masqué. Voilà, la citation, c'est sur le point de monter sur la scène du monde, je m'avance masqué, l'arvatus pro deo. Et, évidemment, il ne s'agit pas de faire tomber les masques. Il ne s'agit pas de dévoiler quelque chose qui serait sous le masque. Donc, la question qui se pose d'emblée, c'est comment est-il possible de prendre en compte le nouveau qu'introduit le discours analytique, c'est-à-dire le nouveau, qu'est la découverte freudienne, que Freud n'a pas forcément formulée en tant que telle. Hein, c'est pas spécialement dans ses dits. C'est dit, dès qu'il veut un peu se raccrocher à quelque chose, Freud, on sait comment il le fait, il se raccroche à la science. Il a besoin de ça, ça fait partie de son frayage. Il suffit de voir un peu le dialogue qu'il a avec Einstein, Warum Krieg, pourquoi la guerre, pour se rendre compte que les explications qu'il donne, finalement, sont des explications qui sont un peu... qui sont le fruit de son élaboration à lui, du savoir, de toutes sortes de choses intéressantes, mais qui n'ont rien à voir avec l'inconscient. Rien. L'histoire du masochisme n'a rien à voir avec l'inconscient. L'histoire des pulsions de vie et des pulsions de mort, si on prend vraiment l'inconscient au sens de Lacan, hein, Lacan va jusqu'à dire ceci, l'inconscient de Freud, c'est l'inconscient que moi, j'essaie de dire ce que c'est. Par contre, le champ est freudien. Il fait la différence. C'est pour ça que dans ces élaborations, il y a toujours eu la question du champ freudien. Donc, l'inconscient, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas prendre en compte, et bien, ce que Freud va découvrir au début, tout à fait au début. La science des rêves, la psychopathologie de la vie quotidienne, le mot d'esprit, c'est-à-dire quoi ? Ben, c'est-à-dire le cristal de la langue. C'est le cristal de la langue qui est ce qui ouvre à tout ce qu'il est possible. Donc, c'est pas le signifié. C'est pas le sens, c'est pas le signifié. Même s'il faut passer par le signifié, c'est-à-dire que le signifié, c'est on use du sens des mots. Bien sûr qu'on use, on n'arrête pas. Hein. Mais le sens sexuel, il était connu bien avant la découverte de Freud. Hein. Il suffit d'aller voir, par exemple, à Rome, et ailleurs, hein. C'est connu bien avant, mais tous les symboles. Donc le sens sexuel, par Freud. La question du déplacement, bien sûr, Freud va insister là-dessus, mais c'est aussi quelque chose qui était déjà connu. Ce qu'introduit, finalement, de nouveau Freud, en étant dans une certaine docilité vis-à-vis des hystériques, puisque ça démarre comme ça, hein, c'est le fait que il y a quelque chose dans lequel l'être parlant se perd, et Lacan va appeler ça réel. C'est-à-dire que l'être parlant se perd dans le fait que il n'y a pas de rapport sexuel. Alors, dès qu'on énonce ça, il n'y a pas de rapport sexuel, on est immédiatement pris par le sens. C'est pas ça qui est en jeu. On a entendu beaucoup là pendant les trois journées du congrès. Pourquoi il n'y a pas de rapport sexuel ? Pourquoi Lacan arrive à dire un truc pareil ? Hein ? Vous savez que, au point qu'à Milan, une femme m'a téléphoné pour lui dire qu'est-ce que vous racontez ? Après qu'il ait fait une conférence. Pourquoi Lacan arriverait ? Premièrement, je crois qu'il y a quelque chose qui est important chez Lacan, qui paraît de plus en plus important. Il a réuni un peu ce qu'il a voulu élaborer, il n'a pas fait un livre, il n'a pas dit jeter un livre, hein, dans ce qu'il appelle écrit. C'est-à-dire que l'important, c'est son écrit. L'écrit, c'est pas d'écrire. Hein. Bon. Et l'écrit, c'est quelque chose qui va formaliser au maximum à partir des mathématiques, c'est-à-dire qu'il va réduire ça à des lettres pour essayer de transmettre justement que il n'y a pas un sens fixé à quelque chose, c'est-à-dire que, notamment quand il va élaborer les formules de la sexuation, les quatre discours, encore d'autres choses, il passe par le fait que, vous savez, la question aussi de la barre, hein, qui est sur le grand S, qui est sur le grand A, etc., il passe par le fait que, il importe d'arriver à une sorte d'impasse de la formalisation, c'est-à-dire de la forme, c'est-à-dire du sens. Tant qu'on n'arrive pas à une impasse dans la formalisation et dans le sens, on est dans ce qu'il va appeler ça un peu le blablabla. C'est-à-dire qu'on parle, on a besoin de ça. On a besoin de parler parce qu'il faut passer par là, mais ce qui est attendu, c'est autre chose. Ça, c'est élaboré à partir des formations de l'inconscient. Je reviens à la langue. Au cristal, il va même dire la langue en un seul mot, pour bien montrer que c'est quelque chose qui n'est pas ce qu'on appelle habituellement la langue. Donc, autour de ça, il y a la question de l'homophonie, hein, des noms du père, hein, suivant que vous écrivez, suivant que vous ponctuez d'une certaine façon, vous allez entendre, par exemple, des choses différentes. Hein. Bon. Le cristal de la langue, en se référant d'ailleurs, à De Saussure et à l'école de Prague, c'est-à-dire que il s'appuie sur la linguistique, mais comme il l'a dit, il n'y aurait pas de linguistique s'il n'y avait pas l'inconscient, et il n'y aurait pas d'inconscient s'il n'y avait pas de langage. Donc il faut vraiment prendre les choses à part. Bon, c'est qu'il n'est pas question d'appliquer des notions de linguistique pour expliquer quoi que ce soit, hein, sinon pourquoi on peut le faire? Mais on est dans un discours scientifique. On est dans un discours scientifique qui a sa fonction, sa voie, sa route. Il importe de le laisser aller dans son cadre, mais ça ne peut pas prendre en compte la découverte de la psychanalyse et notamment ce discours analytique comme un discours nouveau. Alors, ce qui est important, c'est que l'être parlant se perd, disperse dans le rapport sexuel, c'est-à-dire que le réel, c'est ça, c'est qu'il se perd. C'est-à-dire qu'il y a un certain mode, pas de jouir, du jouir propre à chacun, Freud a appelé ça la répétition, et on est pris là-dedans. Donc la question, c'est comment on peut sortir de là? Et il suffit pas, évidemment, immédiatement de plaquer en disant ça c'est la jouissance de l'autre. Parce que la jouissance de l'autre dans la conceptualisation de Lacan, c'est pas ça. Alors je vais un petit peu dire quelque chose là-dessus, d'une part parce que j'en ai parlé, là, Benozer, d'autre part, et puis d'autre part parce qu'il y a une articulation entre ça et l'apparition du féminin, hein, au sens où on en a déjà parlé. Et aussi parce que habituellement, ce que Lacan appelle la jouissance de l'autre, effectivement, est un peu considéré comme quelque chose auquel on pourra avoir accès comme ça, assez facilement, je dirais. Alors que justement, elle est autre, c'est-à-dire que c'est l'autre race, l'autre sexe, l'autre du langage, et on n'y a pas accès. Donc, il n'y a pas de rapport sexuel. Puisqu'il y a un autre sexe avec lequel on n'a pas accès, du fait du langage. Donc, il n'y a effectivement pas de rapport sexuel. C'est ça, le ressort. Mais ça n'est pas pénalisant du tout. Ça n'est pas négatif. Puisque ce ratage du rapport sexuel, qui sera toujours raté, bien sûr, ça n'empêche pas de baiser, c'est pas le problème, c'est pas de ça dont il s'agit. Hein? Ça n'empêche pas un homme et une femme de faire toutes sortes de choses comme le montre la tragédie, la comédie, enfin le théâtre, le cinéma, etc. Hein, c'est pas ça. C'est pas de ça dont on parle. Hein. On est dans le discours, c'est-à-dire dans ce qui se passe quand quelqu'un parle. C'est de ça dont on essaie de parler, puisque l'expérience de la psychanalyse est une expérience de discours, et c'est ça qui est en jeu dans le transfert. Bon. Alors, cette jouissance de l'autre, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est possible d'en dire quand même quelque chose, en sachant que ce sera sans doute quelque chose de pensé, et dès qu'on pense quelque chose sur la jouissance de l'autre, on est à côté, puisque c'est impensable. C'est impensable, hein, c'est pas, ça n'arrive pas de, des facultés intellectuelles. Donc comme c'est impensable, on peut tout à fait le nier, que ça n'existe pas, effectivement. Donc c'est impensable. C'est lié donc à la dimension du langage, et ça nous pose la question d'une certaine, de quelque chose qui est ce qui peut être précisé comme étant, puisqu'il y a le mot autre dedans, qu'est-ce que c'est que le savoir de l'autre? Et Lacan écrit ça, je reviens à l'écrit, grand S de grand appareil. Ça ne suffit pas de dire, il n'y a pas d'autre de l'autre, c'est quand même c'est le signifiant du manque de savoir dans l'autre. C'est comme ça qu'on peut le lire. Et dès qu'on lit, c'est ça que je vais un petit peu lire là ce soir, c'est dès qu'on se met à lire, on est immédiatement pris par le sens. Ça, je ne sais pas si ça a de la valeur ou pas. Mais on est, parce qu'on est fait comme ça. Bon. Alors, cette jouissance autre, dont on est radicalement séparé, est-ce qu'il est possible quand même, que quelque chose nous mette, on va dire, dans sa direction? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de toucher du doigt le sens au sens de la direction, pas au sens de comprendre. Le sens de ce savoir de l'autre, et c'est effectivement ce que Lacan dit, qu'il essaie de frayer, il essaie d'effectuer un frayage, notamment dans le séminaire encore. Pourquoi? Parce qu'il part de ce que Freud a appelé du continent noir, c'est-à-dire que veut la femme, das will, das weil, et il part justement de là, et Freud en reste là, Lacan, pour des raisons de rapport à la jouissance, de rapport à la jouissance, pas au désir, je ne crois pas que c'est le rapport au désir. C'est quelque chose de différent. Bon. Pour des raisons de rapport à la jouissance, Lacan va avancer dans cette direction-là, et c'est à partir de là qu'il est possible de parler de la jouissance de l'autre. Et alors là, il va avancer des formulations qui sont quand même pas simples, parce qu'il faut bien le regarder, les caractères d'énigme. Hein. Il le dit bien, quand il emploie un mot, il le dit. C'est plein de pièges. Il ne faut jamais prendre les mots au sens habituel du terme, au sens commun du terme. Il va dire que c'est la jouissance du corps de l'autre. Et il rajoute du corps qui le symbolise. La jouissance de l'autre, c'est-à-dire la jouissance du corps de l'autre en tant que ce corps le symbolise. Ça, on peut pas aller bien loin là dans la compréhension. Ça s'obscurcirait plus tôt. Et quand il avance des choses comme ça, il dit, mais alors est-ce que ce serait, par exemple, ce que l'on peut penser, à savoir par exemple que l'homme pourrait jouir du corps de la femme et vice versa. Pourquoi pas? Est-ce qu'il pourrait y avoir un rapport sexuel véritablement dans ça? Bien. Toute l'expérience, dit-il, montre que c'est pas comme ça que ça se passe, hein, puisque il faut qu'on arrive à préciser ce qu'est la femme. J'insiste bien, pas au niveau de ce qu'on voit sur le plan de la différenciation des sexes. Durant le congrès, il y a eu une sorte de mélange de trucs. Non, ça n'est pas bien. Si ceux qui parlaient, ils parlaient en référence au langage ou en référence au discours quoi, médical, psychologique, anatomique. C'est-à-dire un sexe, une femme, c'est comme ça, un homme, c'est comme ça. Et on voit bien que ça ne va pas de soi du tout de rester dans le fil de l'expérience du langage. Parce que si c'était dans le fil de l'expérience, c'est-à-dire du discours scientifique qui a fait des boutiques depuis 4 siècles. Hein. Ça a fait le discours du maître, le discours universitaire, le discours historique, d'une certaine manière. Hein. discours analytique, c'est autre chose. Une chose qui apparaît à un certain moment, on ne sait pas pourquoi, sauf que, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'élaboration du discours, on va dire, de la science, était sans doute devenue tout à fait étouffant. Et donc, il y avait des symptômes, et il y a eu ce... Freud ne le dit pas comme ça, mais il y a eu, c'est passé par des femmes qui ont trouvé une certaine jouissance dans le fait de parler. C'est ça qui s'est passé avec les hystériques. Et Freud a pu accepter d'entendre quelque chose. Et si vous regardez bien, si vous lisez les études d'hystérie, tout se passe au niveau du signifiant. Ça se passe pas au niveau du signifié, les trucs, essentiellement. C'est essentiellement ça. Il y a bien sûr toutes sortes de choses qui sont emballées par Freud, l'amour du père, etc., tout ça qui intervient dans les symptômes. Mais quand même, il y a un moment, il y a quelque chose de l'ordre du signifiant qui intervient. Alors, comment est-il possible de s'avancer un peu en direction de quelque chose auquel on n'a pas accès, qui est cette jouissance de l'autre, hein, que je différencie bien évidemment de tout ce qu'on peut raconter sur l'autre sadique, etc., qui aurait cette jouissance. Non, c'est pas de ça dont je parle. Là, on est dans la phénoménologie, on n'est plus dans le langage, on est dans le comportementalisme, on est dans autre chose. C'est pas de ça dont on parle. Ça existe, j'ai rien contre, mais c'est pas de ça dont je parle. Hein. Donc, cette jouissance de l'autre, comment est-ce qu'il est possible de la toucher du doigt? Parce qu'il est possible de la toucher du doigt. C'est ça l'enjeu des psychanalystes. C'est ça qui est au cœur du transfert. Et c'est là qu'on peut placer quelque chose qui a à voir avec le corps et qui a à voir avec le sexuel. J'en parlais, je vous l'ai dit la dernière fois, mais je vais reprendre ça un peu autrement ce soir, parce que c'est ça la richesse, c'est que dès qu'on se met à aborder ça, de toute façon, on est automatiquement obligé de le contourner, c'est ça le déplacement, et dès qu'on contourne, chaque fois on prend un chemin différent. Donc c'est ça l'intérêt. Donc, ce que je, personnellement, ce qui me semble s'élaborer, dans ce qui me semble être à moi, à mon frayage, chacun a fait un frayage. C'est que tout ça s'est mis comme ça à bouger, hein, un peu comme les lettres, comme ça qu'on peut voir sur les bandeaux lumineux, là où il y a des lettres qui apparaissent, et puis pour la limite changer, hein, un peu comme penser des anagrammes, ça pourrait être ça comme ça. Tout ça s'est mis en place pour moi, dans mon expérience. À partir du moment où il y a quelque chose qui m'a mordu et qui est que quelque chose s'est engagé et qui est, alors qui est venu d'où? J'en sais rien du tout, premièrement, je n'en sais rien, hein, mais qui m'a conduit à quoi? Je crois, comme Lacan fait des nœuds en gribouillant, hein, en scribouillant, comme il dit, hein, scribouiller et puis scriber, hein, les contractions, en scribouillant. Et je crois que moi je vais faire un peu quelque chose du même ordre. Hein, voilà. Alors, bien sûr, il y a la technique, la respiration, tout ça, c'est important. Mais c'est quand même autre chose. Hein, c'est quand même autre chose qui à un moment peut se faire entendre. Hein. Eh bien, justement, à partir du moment où où cette expérience-là, j'ai pu là, aller à sa rencontre, hein, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, ce que Lacan a pu écrire dans ses séminaires, encore les noms du père, la télévision, l'étourdi, radiophonie, enfin, il y en a cinq là, qui sont comme ça. Bon. C'est des années 70 à 73-14, hein, c'est des années quand même, à mon avis, importantes. Hein. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a quelque chose qui progressivement, dans ce que je pouvais penser, qui s'est dénoué. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement, comme on dit, un symptôme, c'est un nœud, hein, d'une certaine manière. Et il y a quelque chose qui se dit. Alors, ce que je peux dire, moi, ce que j'essaie de leur dire à mes collègues, à mes, c'est que, effectivement, il y a quelque chose auquel on n'a pas accès. C'est ce savoir, c'est ce savoir. Alors, ce savoir, c'est, là, quand on insiste là-dessus, c'est un savoir qui est celui du lieu, il appelle ça de la résidence des signifiants, dans un séminaire encore. Et un signifiant, ça s'entend. Dès qu'on lit et comprend un signifiant, on est dans le signifié. C'est-à-dire qu'il y a une barre radicale de coupure entre être signifiant et signifié. Bon, alors, le fait que ça s'entende et que ça ne soit que ça, hein, l'amène Lacan à dire que le corps, à le prendre au sérieux, est d'abord, là c'est une citation de Radiophonie, 70, le corps est d'abord ce qui peut porter la marque propre à le ranger dans une suite de signifiants. Donc là, on est complètement en dehors du corps, tel qu'on peut le voir, tel qu'on peut le fantasmer, tel qu'on peut l'imaginer. On est tout à fait dans la question, justement, dans cette matérialité inconditionnelle du signifiant. Inconditionnelle du signifiant et des signifiants. Bon. Alors, ce qui peut être dit, ce que je pourrais dire maintenant, c'est que finalement, en psychanalyse, ben, on use les mots, non seulement parce qu'on les utilise, hein, mais parce qu'il s'agit d'user le sens, user, hein, c'est la fonction d'usage, hein, ce qu'on appelle depuis l'estoïcien, qui est utile. Et puis il y a quelque chose qui ne sert strictement à rien, qui est la jouissance. Et la jouissance, elle apparaît quand la fonction d'usage des mots, ben ça ne sert à rien. Donc quand le signifie ne sert à rien, quand on est vraiment du côté du signifiant. Alors évidemment, ça ne se prépare pas, ce truc-là, c'est quelque chose qui vient nous sonner un jour ou pas. Hein. Alors, l'énigme, parce que c'est ça, hein, c'est ça le féminin, l'énigme, c'est qu'il y a une part chez l'être parlant. Alors pour reprendre les formulations comme ça, qu'on n'arrête pas d'entendre, qui sont finalement pas si mal, hein. Chaque être parlant est du côté de la fonction phallique, qu'il soit homme ou femme, il est dans, de toute façon, hein, la fonction phallique. Hein. Donc je ne parle pas des caractères sexuels secondaires, tertiaires et primaires. Hein. On laisse un bloc Ellis, là, 1894, tranquille. Hein. On laisse ça, discours scientifique, hein, qui est tout à fait intéressant, permet de repérer les choses. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Donc, chaque être parlant est dans la fonction phallique, hein, la signification du phallus, le sens, en fait, tout ce qu'on parle, les mots, etc. Hein, qu'est-ce que c'est de ça? Et puis, ça c'est ce qu'avance Lacan, si tout être parlant est dans la fonction phallique, il écrit avec des formules, je ne sais pas, avec point des formules, il dit qu'il y en a un qui dit non à la fonction phallique. Et c'est ça le père. Mais c'est le discours, on est dans le discours, on n'est pas dans le papa, hein, on n'est pas dans le père imaginaire, voire même symbolique, réel, tel qu'on en parle habituellement. C'est dans le discours. Donc, c'est pour autant que la castration intervient, c'est la fonction du père, dans le discours, qu'il apparaît la possibilité que, chez l'être parlant, qu'il soit du côté homme ou femme, au sens de l'état civil, il, même s'il est dans la fonction phallique, il n'y est pas tout, pas en totalité. Et il y a cette ambiguïté permanente. Chez Lacan, je pense que c'est voulu, où il parle des femmes, les femmes, etc. Et évidemment, chacun est content parce que chacun s'y retrouve à sa façon. Hein. Mais il me semble qu'en fait, quand il parle de ça, il parle, il le dit, quand vraiment il est sérieux, il le dit, hein, il parle de ces femmes partout. Hein. C'est plus bien à ce moment-là qu'on parle, hein, en référence au langage. Eh bien, il y a donc une part de l'être parlant. Après tout, ça existe aussi chez ceux qui sont du côté masculin au sens du discours scientifique. Hein. Eh bien, il y a donc une part, on va l'appeler féminine, c'est-à-dire le féminin. Hein. Et pour bien montrer que la femme, elle n'est pas celle qu'on appelle habituellement par rapport à l'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui serait, même si c'est différent, c'est quand même du même ordre, il parle là, hein, il parle là, hein, bien montrer que la femme n'existe pas. L'homme, il existe, mais la femme n'existe pas. Ça ne veut pas dire du tout que la femme n'existe pas sur le plan des caractères sexuels. Pas, évidemment que ça existe, bien sûr, sinon ce serait quand même très problématique. Hein. Puis toute la dimension du fantasme, c'est quand même très... On se demande comment ça pourrait marcher. Donc, la femme n'existe pas parce que le savoir habituel de la fonction phallique, c'est le savoir de tout homme, du tout, de l'universel. Tout homme. Quel que soit l'endroit où on est placé. Et il est possible de ne pas être tout dans la fonction phallique. C'est ça la question, mais pas tout. Pour ça, il importe que quelque chose advienne, c'est-à-dire que cesse ce qui ne cesse pas de s'écrire, le nécessaire, pour que quelque chose cesse de ne pas s'écrire, le contingent. Le hasard, il dit en télévision, il dit l'atout hasard. Et l'acte analytique a besoin de cette, comme il le dit poétiquement, de cette ère de sexe, au sens du patou. Donc, si les femmes patou s'isolent dans leur être sexué, c'est ça le sexuel, en regard de l'expérience de la psychanalyse, c'est pas le sexuel au sens habituel du terme, lequel ne passe pas par le corps, mais par la parole. C'est-à-dire que la dimension du féminin, d'emblée, introduit à la dimension de la parole, à ce qu'introduit la parole. C'est-à-dire que la parole, on parle de la parole en référence à cet autre. Alors, la grande question, c'est... celle que je pose au début, c'est qu'est-ce qui fait qu'il est possible de toucher à cette jouissance autre de laquelle nous sommes séparés? Eh bien, je dirais que ce qui permet de toucher du doigt, c'est cette apparition de cet être sexué qui passe par la parole. Ça va quand même poursuivre en disant, et qui dit l'exigence logique de la parole, c'est quoi? C'est le langage, et le langage dont les corps sont agités, mais qui est séparé des corps, et le langage, c'est quoi? C'est l'autre. Je vous savais, la fois ici, je citais l'autre qui, pourrait-on dire, maintenant, s'incarne comme être sexué. Le féminin, ce serait cette opération complètement impensable, énigmatique, qui serait ce, mettrait en direction d'un moment, un moment insaisissable, où l'autre s'incarne comme être sexué. Ce n'est pas la jouissance des mystiques. Les mystiques, ils restent là, justement, de ça. L'important, c'est le maintenant, c'est la contingence. Et donc, si on touche à ça, si on arrive à toucher à ça, moi je pense que c'est ça qui me fait jaspiner, qui me fait causer. S'il arrive parfois qu'on touche à ça, alors ce que l'expérience en m'apprend du champ, c'est que c'est surtout pas quand quelque chose comme ça peut être, bon c'est pareil pour la danse, dire votre avis après, tu as ton avis, référence et d'autres, c'est que quand ça survient, c'est le récepteur qui touche. Celui qui est, on va dire, le passeur, celui qui est passant, celui qui est passant, celui qui est l'interprète de ce moment, de ce mouvement-là, il ne sait pas ce qu'il fait, puisque ça ne peut pas se penser, déjà, inévitablement. Et donc, c'est le passeur, en l'occurrence, celui qui est là, qui peut entendre, qui peut le voir, qui peut entendre, parce que je pense qu'on doit voir et entendre en même temps. Enfin, on n'est plus dans la répartition habituelle. Eh bien, cet autre qui s'incarne comme être sexuel. Il y a quelque chose de vrai dans l'histoire de l'incarnation du christianisme. Hein. Mais c'est pas ça. Ça s'incarne, incarne pas comme être sexuel. Le Verbe s'est fait chair. Il y a quelque chose de vrai. Mais quelque chose de vrai.